Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
C'est la nouvelle idole des cours de récré, Carole Sevilla, l'héroïne de la série télé Soy Luna. S'est confiée à Laurent Marcy qu'à la veille d'une tournée dans toute la France, nous vous offrirons des places pour assister au concert de la jeune artiste dans la ville de votre choix. Tahar Ben Jelloun publie La Punition, le récit exceptionnel de ses 19 mois de détention dans un camp militaire au Maroc. Il y a 50 ans, Bernard Lehu a rencontré l'écrivain. À la télévision ce soir, Isabelle Morini-Bosque a choisi le nouveau rendez-vous de Stéphane Bern sur France 2, La Fabuleuse Histoire. Dans ce premier numéro, Stéphane retrace l'histoire du restaurant. Quel amour ? C'est le titre d'une série d'expositions et de spectacles dédiés à l'amour que propose à partir de demain, jour de la Saint-Valentin, les Bouches-du-Rhône dans 9 villes du département. C'est ce que nous expliquera Monique Younes. Et puis nous n'oublierons pas, bien entendu, nos express du jour avec Olivia Leroy.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
La star préférée des 6-10 ans débarque donc en France pour une série de concerts avec RTL. Elle, c'est Carole Sevilla, l'héroïne de Soy Luna, une série Disney Channel qui cartonne partout dans le monde. Laurent Marcic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré Carole Sevilla avant son premier concert à Lyon demain. La jeune star de Disney affole les compteurs.
Oui, plus de 29 millions de téléspectateurs rien qu'en Europe. On dépasse largement les 100 millions dans le monde en comptant les 40 pays où elle est diffusée. C'est plus fort que Violetta. Soy Luna, si vous ne connaissez pas, c'est une teen novella, donc pour ado, elle est née en Argentine et qui raconte le quotidien d'une jeune fille, Luna Valente, fan de patins à roulettes et qui tente de trouver son équilibre au milieu d'une bande de copains et d'un passé douloureux. Elle est orpheline. Celle qui incarne donc cette jeune fille aux multiples talents, c'est une toute jeune actrice mexicaine de 18 ans, Carole Sevilla, qui vit un rêve éveillé.
Oui, c'est réellement une immense opportunité, un rêve, devenir célèbre, être reconnue dans beaucoup de pays. Prenons le cas de la France à Paris. Je ne parle même pas le français alors que les gens me connaissent. Ça veut dire que mon travail a plu, c'est vraiment gratifiant. Je veux remercier Mickey, Minnie, Pluto, tous les personnages Disney de m'avoir donné cette chance.
Et tout le monde. Fan de patins à roulettes, donc il paraît même que certaines fédérations ont enregistré 25% d'inscription en plus depuis le début de la série. Le patin et Carole Sevilla, c'était pourtant pas gagné au départ.
Ça a été 6 mois intensifs d'entraînement, 5 heures de patin toute la journée avec le casque et les protections. Je suis tombée des milliers de fois. Mon meilleur ami était le sol. Mais je suis aussi butée que mon personnage, Luna. Alors j'ai essayé encore et encore, 1000 fois, jusqu'à ce que je réussisse. Et aujourd'hui, je peux dire que je patine bien. Sur scène, j'ai 2 danses en roller qui sont les solos. Et voilà, je m'en sors plutôt bien.
Et alors dans son spectacle, ce sont donc les chansons de la série.
Exactement, avec l'ensemble du cast, Luna va dans Soy Luna Live explorer un rêve.
Contamos una historia.
En fait, on raconte une histoire, c'est un rêve. Luna est tout le temps en train de rêver. Elle rêve qu'ils sont tous sur scène. Il se passe plein d'aventures et le public est tantôt emmené à être complice des méchants, tantôt des gentils. Et les enfants dans le public se divertissent, ils chantent, dansent, ils crient très fort. C'est vrai que c'est épuisant, mais on prend vraiment du plaisir à le faire et ça rend les choses beaucoup plus plaisantes.
Et dites-moi alors, si elle est sur scène, elle ne tourne plus du coup?
Exactement, la 3e et dernière saison, encore inédite, est tournée, bouclée du coup. C'est un peu une tournée d'adieu ce qu'elle fait là. La suite, eh bien mystère, chaque chose à la fois. Ça c'est typique des jeunes filles d'Amérique du Sud, on fait une chose à la fois. Une chose est sûre en tout cas, il n'y aura pas de cinéma comme Disney l'avait fait avec d'autres stars et avec l'autre star des enfants, Violetta.
Non,
pour l'instant non. On parle beaucoup d'un film, il y a beaucoup de rumeurs sur ça, mais pour l'instant non, pas de film ciné. Il n'y a pas de discussion avec Disney, mais disons que je fais partie de la famille maintenant, donc j'aimerais pouvoir continuer avec eux. Ils le savent, je l'ai dit, alors attendons pour connaître la suite.
Et sur scène, Carole Sevilla et ses patins à roulettes retrouveront donc tout le cast, dont Matteo, le garçon qui ne sait pas ce qu'il veut, il a un coup amoureux, un coup il ne l'est plus, et tous les autres copains du Jam and Roller, c'est le café de la série, là où ils vont patiner. Et pour ses fans français, Carole Sevilla a ce message.
Yo quiero decir merci, gracias, realmente gracias, porque si no fuera por ellos, nosotros no seríamos nada.
Sans eux, nous ne serons rien. Un brin philosophe, Carole Sevilla, qui est donc en concert avec nous.
Soy Luna Live arrive donc en France, en concert dès demain à Lyon et dans tout le pays. Toutes les dates et interviews en vidéo, en intégralité, à retrouver sur le site RTL.fr. Et puis ce matin, un cadeau exceptionnel, puisque nous vous offrons des passes familles. J'ai bien dit des passes familles. 4 places pour le concert de votre choix. Pour cela, il faut répondre à la question que vous pose Laurent.
Allez, facile. Quel sport pratique Carole Sevilla dans la série de Disney Channel Soy Luna?
Oui, alors c'est vraiment... on est généreux. Cadeau. Très, très...
On va dire ça roule.
Bien,
hein.
Merci. Réponse au 32-10. Réponse à notre jeu, bien entendu, en fin d'émission, pour savoir si vous avez gagné ces passes familiaux de 4 places pour les concerts de Soy Luna Live qui arrivent donc en France. On va passer maintenant à nos audiences télévisées de la veille, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie.
Eh bien, je suis assez satisfaite, puisque les Bracelets Rouges arrivent en tête des audiences. 5 700 000 téléspectateurs pour le quotidien des enfants hospitalisés sur TF1, 22% du public. Et égalité presque parfaite entre, quasiment parfaite, pardon, entre Rizzoli & Niles sur la 2 et Scène de ménage sous les tropiques sur M6. 3 300 000 téléspectateurs dans les deux cas et 12%, ah, ben même 14% du public sur M6. Donc, en part de marché, M6 est deuxième. C'est un très joli score. Et alors, côté TNT, j'ajuste mes yeux, eh bien, je crois bien que c'est TMC avec... Attendez, je suis sur la bonne ligne. Oui,
façon,
c'est TMC avec 2012 qui est en tête, 941 000 téléspectateurs.
Moi, je m'en fous, j'ai regardé les chiots et les chatons.
C'était
sur...
mignon.
Oh, bah oui, avec Jamy, je peux vous dire que c'était extraordinaire.
Ça,
sur France 3, je crois que je vais me le rediffuser pour moi-même une quarantaine de fois.
Ça n'a pas mal marché, c'était instructif.
Ah, bah, tant mieux. Dans quelques instants, les express d'Olivia Loret.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi, les Express LVT.
Nos Express préparés par Olivia Loret. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
La cérémonie des Globes de Cristal cette nuit au Lido.
La cérémonie qui récompense les artistes dans tous les domaines culturels. Ce Vincent de Dieme a été élu meilleur one man show pour S'il se passe quelque chose. Un autoportrait drôle et sensible déjà récompensé par un Molière l'année dernière. Ému et surpris, écoutez ce qu'il a dit à Isabelle Morini-Bosque.
Pas du tout, j'étais persuadé de pas la voir. La preuve, ça s'est senti, j'avais vraiment rien préparé.
Et les Globes de Cristal, par rapport au César, par rapport au Molière, par rapport aux Victoires de la Musique, cette espèce de synthèse d'un peu tout?
Bah, les Césars, j'y suis jamais allé, je n'ai jamais fait de cinéma. Les Victoires de la Musique, j'aimerais bien faire un album, mais j'ai peur qu'on se moque. Donc du coup, non, je trouve que l'éclectisme, c'est un truc, en fait, c'est une valeur assez rare. En France, c'est plutôt suspect d'être éclectique en France par rapport aux autres pays. Donc une cérémonie récompense ça, c'est une bonne nouvelle.
Et alors le reste du palmarès, meilleur album masculin Benjamin Biolay, meilleur album féminin Juliette Armanet, meilleure série 10%, meilleur film français 120 battements, meilleur film étranger La La Land, meilleur roman Bernard Latresse.
Oui, de Laetitia Colombani, dont voilà. On a beaucoup parlé ici.
Exactement, et les Globes de Cristal seront diffusés sur TV5 Monde jeudi.
Et Vincent De Dienne est le repapa d'un chaton qui s'appelle Michoko.
Alors, on
change d'ambiance. L'écrivaine et journaliste Françoise Xenakis est donc décédée hier à l'âge de 87.
Veuve du compositeur et architecte Yanis Xenakis, elle laisse une vingtaine d'ouvrages, essais ou romans, dont Attends-moi, prix des libraires en 93. Françoise Xenakis et ses célèbres lunettes rouges s'étaient également fait connaître du grand public en devenant la chroniqueuse littéraire de l'émission Télématin sur France 2 pendant une vingtaine d'années.
Joaquin Phoenix en pourparlers pour être le Joker produit par Martin Scorsese.
Oui, il pourrait bien succéder à Jared Leto. C'est le réalisateur Todd Phillips qui a proposé ce rôle principal à l'acteur américain de 43 ans. On l'a notamment vu dans Her ou dans Gladiator. Et Joaquin Phoenix aurait accepté, selon le site Variety. Le film retrace la vie du pire ennemi de Batman de ses débuts jusqu'à ce qu'il devienne un super méchant chez DC Comics.
Le prochain OSS 117 se fera sans doute sans Michel Hazanavicius.
Invité de Laissez-vous tenter jeudi dernier, Jean Dujardin nous avait confié « J'espère que tout le monde suivra et qu'il y aura la même équipe » avant de préciser que le film était en écriture. Et
oui, on l'a senti un petit peu vasouillard.
Eh bien voilà, écoutez, interrogé sur le sujet, Michel Hazanavicius ne semble pas tout à fait du même avis que Jean Dujardin. Ça devrait se faire, a-t-il dit. Moi, je fais un autre film, mais pas ça, sans préciser quel sera son nouveau projet.
Renaud en maison de repos, donc pour régler ses problèmes avec l'alcool.
L'artiste de 65 ans est allé dans cet établissement privé de région parisienne de sa propre volonté. Il va bien, il se repose, assure David Séchant, le frère du chanteur, sur sa page Facebook. Il va bien, mais apprend à se passer de ce breuvage assassin qu'est la bière, précise-t-il aux Parisiens. Renaud a sorti l'album Toujours Debout en 2016. Il avait enchaîné avec une très longue tournée.
Et puis aujourd'hui, on a très envie de réentendre la voix d'Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
On en a envie tous les jours de réentendre la voix d'Henri Salvador, mais aujourd'hui plus particulièrement, ça fait 10 ans que l'artiste jazzman showman est décédé. C'était le 13 février 2008. Il avait 90 ans.
Dans mon jardin d'hiver.
Les Express nous étaient proposés par Olivia Leray. On va passer maintenant à la littérature. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
L'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun publie chez Gallimard La Punition. Il ne s'agit pas d'un roman, mais en fait d'un récit purement autobiographique, celui des 19 mois de détention que le jeune Tahar, alors âgé de 20 ans, a passé dans un camp militaire en 1966.
Oui, un témoignage exceptionnel et d'autant plus fort que Tahar Ben Jelloun n'a donc pu le mettre en mots qu'après 50 ans de silence. Le prix Goncourt 1987 pour La Nuit Sacrée raconte de quoi le régime marocain voulait le punir à l'époque.
D'avoir été un étudiant opposant, avoir manifesté dans les rues en mars 1965 à Rabat, j'étais étudiant en philosophie à l'époque, et d'être responsable étudiant d'une cellule de syndicat des étudiants. Donc, quelques mois plus tard, le général Oufkir, de sinistre mémoire, nous avait envoyé dans un camp disciplinaire de l'armée en disant à nos parents qu'on faisait un service militaire, ce qui n'avait absolument rien d'un service militaire, mais c'était vraiment un camp de redressement. Ils allaient faire de nous des gens punis pour leurs idées, pour leur attitude à l'égard du régime et de la monarchie.
Alors Tahar Ben Jelloun raconte ses 19 mois de calvaire entre les mains de brutes de la pire espèce, tondu comme un mouton, écrit-il, dès son arrivée. Le matricule 10366 subit des humiliations quotidiennes, les corvées les plus absurdes, une nourriture infâme et des violences physiques permanentes.
L'hiver, ça a été terrible parce que une des tortures qui nous infligeait, c'est de nous réveiller à 4h du matin et nous exposer sous la neige, debout, au garde-à-vous pendant 4h, avec un petit t-shirt et un petit short et des sandales. Et celui qui tombait recevait des coups de bâton sur la tête. Donc voilà, ce genre de choses. Et l'été, c'était autre chose. L'été, on nous faisait transporter des pierres pour construire un mur qui n'avait aucun intérêt à 5 km du camp et revenir avec d'autres pierres, etc. Ils en trouvaient chaque jour, ils trouvaient quelque chose pour nous emmerder et pour surtout nous faire souffrir. Pour eux, nous étions des femmelettes et là, ils vont en faire de nous des hommes, c'est-à-dire des brutes et des abrutis.
Alors, comment résister à cette barbarie, Bernard ?
Eh bien, c'est la partie la plus intéressante et la plus émouvante de La Punition. Dans un réflexe de survie, Tahar Ben Jelloun commence par se répéter que le jeune homme qui subit ce calvaire n'est pas lui, qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Il s'échappe de lui-même, en quelque sorte. Mais la véritable évasion qui va le sauver définitivement passe par ses souvenirs de lecture, de cinéma et de musique.
Et je me remémorais les yeux d'Elsa d'Aragon et j'écoutais aussi dans ma tête Léo Ferré chanter Aragon, Jean Ferrat chanter Aragon. Et puis après, il y a les films que j'avais aimés, que j'avais présentés au ciné-club de Tanger, tout ça. Ça revenait chez moi. Et alors, c'était extraordinaire quand on n'a aucun moyen, on n'a que la mémoire, de se fermer les yeux et de revoir un film. Et j'ai fait cette expérience, elle est sublime. Et j'entendais les voix des chanteurs que j'aimais. J'entendais Louis Armstrong chanter avec Ella Fitzgerald. J'avais un monde intérieur, mais totalement auquel les militaires ne pouvaient pas avoir accès. Et c'était formidable. Et je me suis entêté à garder en moi l'intelligence et la culture.
La vie intérieure, ça sauve donc, c'est
mais
ce que tu es en train de nous dire.
Mais oui, exactement. Et alors pour autant, Tahar Ben Jelloun ne sortira pas indemne de ses 19 mois d'enfer. Mmh. Il raconte le difficile retour chez ses parents et à la vie normale, l'insomnie qui ne le quitte plus depuis 50 ans, et surtout le grand chagrin d'avoir perdu sa fiancée de l'époque, lassée de l'attendre. Mais l'épreuve a aussi forgé l'être et plus encore l'écrivain qu'est devenu par la suite Tahar Ben Jelloun.
J'ai appris très vite que l'humanité n'était pas ce qu'on pensait, qu'elle pouvait être capable de tout, que l'homme était capable de tout, et puis qu'il fallait dans la vie se battre pour ses idées, pour ses opinions, ses convictions, et qu'il faut pas baisser, se mettre à genoux, il faut pas abandonner. J'ai appris ça et j'espère que j'ai maintenu ce cap jusqu'à aujourd'hui, parce que je continue quand même tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent témoigne de mon engagement pour la justice, les droits de l'homme, la liberté, les valeurs principales qui font que nous sommes des hommes et non pas des animaux. Et je pense que j'ai été façonné, je suis sorti différent quand même, complètement différent. Aujourd'hui, je peux le dire. Et ce que je me suis complètement libéré de toutes les entraves. Et ça a été l'épreuve la plus intéressante dans ma vie.
Mais oui, quel paradoxe que cette tentative de déshumanisation qui tourne à l'émancipation d'un homme, l'implacable défaite des bourreaux et l'éclatante victoire de leurs victimes. Eh bien voilà le superbe enseignement que nous transmet Tahar Ben Jelloun dans son récit La Punition qui vient de paraître chez Gallimard.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Dans un instant, notre soirée télévisée avec en particulier la fabuleuse histoire de notre ami Stéphane Bern. C'est une nouvelle émission et ensuite nous irons flâner dans les Bouches-du-Rhône.
Flirter, vous voulez dire ?
C'est exactement ce que j'attendais.
Voilà.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Notre soirée télévisée, Isabelle Morini-Bosque, et votre coup de cœur du jour, c'est ce soir sur La 2, la fabuleuse histoire du restaurant.
Ah oui, création française bien sûr présentée par Stéphane Bern, qui est au patrimoine à la télé ce que la pomme de terre est au gratin dauphinois. Et ce soir, il raconte le quotidien des Français à travers l'histoire de la gastronomie française, donc évidemment du restaurant.
Ça va croustiller.
Ouais. On est dans le couloir du temps, costumé. Il faut dire que tout le décor nous replonge d'abord dans le Moyen-Âge, puis on avance ensuite au XVIIIe siècle, puis la Révolution française, puis le XIXe siècle, jusqu'aux guinguettes, et puis jusqu'à la période contemporaine. C'est tourné comme une fiction. J'ai deux jeunes chefs à mes côtés, Nathalie Nguyen et Grégory Curon, et je leur lance des défis. On doit d'abord aller faire le marché, comme si on était au Moyen-Âge, puis ensuite cuisiner. Même chose à toutes les époques. On apprend plein de choses en s'amusant. C'est une autre façon de raconter l'histoire en immersion complète. Et puis, on se prête au jeu parce que soi-même, quand on est grimé en gueux du Moyen-Âge ou en maître d'hôtel du 19e siècle, c'est assez jouissif. Et on apprend mille choses sur notre vie quotidienne au restaurant.
C'est vrai. On retrouve l'esprit de l'émission de Mac Lesguy sur M6 Naguère. C'est tourné dans de vraies auberges du 18e et 19e siècle pour les siècles concernés. C'est reconstitué pour le Moyen-Âge. Par exemple, pour les auberges créées il y a 6 siècles. Comme à l'époque, villes et commerces se développent, il faut un lieu où s'arrêter le soir pour manger et dormir obligatoirement. Les deux vont ensemble. Puis c'est plat unique.
Il faut que les choses reposent.
Absolument. L'assiette est une grosse tranche de pain appelée le tranchoir. Et à la fin du repas, évidemment consommé avec ses doigts, il n'y a ni couteau, ni fourchette, ni cuillère. Si, il y a couteau, mais il n'y a pas cuillère et fourchette. Eh bien, on partage ce pain. On dit qu'on fait compain, ce qui donnera copain et compagnon. Et Stéphane Bern l'a dit, il soumet ses deux chefs à diverses épreuves, comme là, se rendre au marché, on est donc au Moyen-Âge, et faire un panier d'aliments, l'un pour riche et l'autre un panier d'aliments pour pauvre.
Vous, Nathalie, si vous voulez bien faire le panier du pauvre.
Très bien.
Et vous, Grégory, le panier du riche.
Avec plaisir.
Allez, moi, je me jette sur les pommes.
Je
jette sur
les champignons. Ouais, les pommes, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est tellement basique.
C'est basique, ouais, on en trouve partout.
C'est évident, la pauvre.
Pour vous, les steppes, c'est pour les riches.
Ah, oui, c'est un super produit, ça.
Là, vous avez des choses aussi.
Eh bien,
j'ai du céleri.
Non, il se trompe. La preuve avec Stéphane Bern.
Mais il y a une chose qui m'a beaucoup amusé. Quand vous faites le marché au Moyen-Âge, vous vous rendez compte que, par exemple, la pomme, qui aujourd'hui est sans doute le fruit le moins cher, eh bien, l'un des fruits les plus chers. Et que le champignon, à commencer par les truffes, sont peut-être aujourd'hui ce qu'il y a de plus cher. À l'époque, ça valait rien du tout. Pourquoi ? Mais parce que plus vous êtes proche de la terre, plus on laisse ça aux bêtes et aux paysans, et plus vous êtes près du ciel, donc tout ce qui pousse dans les arbres, plus on laisse ça au Seigneur. Et d'autres choses, par exemple, on est à table, on est avec la salière, passe-moi le sel, personne ne vous passe le sel de la main à la main. On croit que c'est une superstition religieuse. Non, on avait peur de se faire empoisonner. Il y avait deux façons d'être empoisonné, ou par le sel, ou par l'eau ou le vin. Donc on se promenait avec son propre attirail, et on venait avec sa salière, et donc on ne se passait pas le sel. Maintenant, je crois qu'on n'a plus tellement envie d'assassiner son voisin de table. Donc on peut tout à fait se passer le sel, on ne risque rien.
Quoique, comme dit Monique. Et là, il découvre l'Amérique. À ce propos, Christophe Colomb la découvre lui pour de vrai, et il en rapporte des produits, maïs, pommes de terre, tomates, haricots, qui perturbent les autorités, comme le confirme l'historien Florent Quellier.
Ces aliments américains intriguent. On est dans une société qui pense que le monde a été créé par Dieu. Or, ces aliments ne sont pas décrits dans la Bible. D'où la question, peut-on les consommer ?
Et oui, et là, tout va très vite, le chocolat arrive, puis le café importé d'Éthiopie par les marchands arabes. On se précipite en 1669 aux soirées de l'ambassadeur turc qui en propose. Et c'est bientôt la création des maisons de café où on vient prendre du bon temps. C'est nouveau comme notion, on lit aussi dans le marc de café. Puis arrivent les maisons de bouillon où on a désormais le choix, une carte pour se restaurer, d'où l'apparition du nom de restaurant. Et la technologie facilite les choses, par exemple la rôtissoire automatique.
Comment ce tournebroche arrive-t-il à tourner alors qu'il n'y a pas d'électricité ?
Regardez, nous avons ici un mécanisme fait de poulies, de cordes. Donc les poulies vont entraîner les cordes grâce à un système de contrepoids et la rôtissoire va tourner toute seule. Avant, il fallait le faire à la main. Là, on a des poulets, mais quand on a un chevreuil...
Et oui, et donc ça va faire une cuisson très homogène et on peut mettre vraiment des chevreuils de tout. Et retour à Stéphane Bern qui a passé ce week-end un coup de gueule très relayé. Alors c'était quoi au juste ce coup de gueule ?
Bah écoutez, vous savez, de temps en temps, il faut être un peu éruptif et dire ce qu'on pense. Dénoncer certains hauts fonctionnaires hors sol qui m'empêchent d'avancer. Non seulement ils ne veulent pas faire, mais ils veulent m'empêcher de faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui bloquent ma mission de Monsieur Patrimoine, il faut que je me dépêche de sauver les monuments. J'ai besoin qu'on débloque les fonds. Et donc, ça y est, mon coup de gueule a eu des effets positifs. Et puis, le ministère de la Culture s'est réveillé. Tout se passe bien entre Françoise Nyssen et moi. Comme quoi, de temps en temps, il faut pousser des coups de gueule. Quand vous êtes une personnalité libre, je ne dépends d'aucun pouvoir. Donc voilà, on avance. Ça, c'est le premier point. D'autre part, on va continuer à lancer de nouvelles marques sur France Télévisions. Il y a la fabuleuse histoire. Là, c'est le restaurant. Mais on peut imaginer l'hygiène et la beauté. Et au mois de mars, eh bien, on va lancer une nouvelle émission avec Laurent Deutsch, aussi patrimoniale, c'est Laissez-vous guider. Et là, on va faire revivre des monuments qui ont disparu. C'est une sorte de battle. Laurent Deutsch défend Paris et moi, je défends Marseille. Ça va se passer en prime time aussi sur France 2.
Vous savez quoi ? On le retrouve à 21h. Il a aussi un bon coup de fourchette. Voilà. Il y a les coups de gueule et les coups de fourchette.
Exactement.
Monique Younes.
Oui.
Quel amour.
Mais oui.
C'est le titre de la grande manifestation artistique qui commence demain, jour de la Saint-Valentin, dans tout le département des Bouches-du-Rhône.
Oui, et pendant 7 mois, 9 villes des Bouches-du-Rhône, dont Marseille et Arles, vont célébrer l'amour avec des expositions, des spectacles de danse, des concerts, du théâtre et des divers événements originaux. Alors, 5 ans après Marseille, capitale européenne de la culture, c'est l'amour par l'art et la culture, c'est un concept, il faut toujours des concepts. Celui-ci commencera, comme il est d'usage à Marseille, sur le Vieux-Port, par un événement ludique, festif et amoureux, le grand baiser. La chose a été imaginée par Dominique Bluzet, directeur des théâtres, qui s'est inspiré de la photo de Robert Doisneau, le baiser de l'Hôtel de Ville.
L'idée, c'est de donner rendez-vous à 19h sur le Vieux-Port de Marseille à des milliers de gens. Il va y avoir une grande barge avec une boule à facettes géante sur le Vieux-Port qui va retransmettre comme ça des tas de messages, des tas d'images. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être 20 000 personnes, 40 000 personnes qui vont s'embrasser simultanément à la même seconde. Et là, Groupe F, le plus grand pyrotechnicien du monde, va réussir à la fois par une illumination et par une série de photos à immortaliser ce baiser collectif qui sera donné par des milliers de gens et le retranscrire sur des tas de réseaux sociaux. Ça va être notre symbole de l'amour comme peut être le baiser de l'Hôtel de Ville pour la ville de Paris.
Alors le grand baiser ouvrira donc la saison amoureuse dans les Bouches-du-Rhône et pendant 7 mois, il ne sera plus question d'autre chose que d'amour dans la région PACA. Les transports seront amoureux, le cirque est un cirque amoureux, toutes les nuits seront des nuits d'amour, amour de jeunesse, amour de la cuisine, amour de l'amour et presque tout sera gratuit le week-end d'ouverture, le 17 et 18 février, m'a dit Dominique Bluzet.
Nous, par exemple, dans les théâtres, au gymnase, aux Bernardines, on est ouvert 60 heures non-stop avec un bal des remariés, avec une nuit de l'effeuillage où les gens s'enferment dans un théâtre pendant toute une nuit et où on leur raconte des tas d'histoires pour essayer de vous montrer comment ça peut être joyeux, comment ça peut être drôle, comment ça peut être poétique et comment ça peut être heureux d'être tous ensemble.
Bon, alors, quand on parle de culture à Marseille, on pense avant tout au MUCEM, hein, le fameux musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Comment ça va se passer, l'amour, dans ce musée ?
Très chaud, Méditerranée. Année oblige. Les collections du MUCEM contiennent des milliers d'objets qui parlent d'amour. L'historienne Julia Ferloni en a sélectionné 26 et a imaginé une exposition sous forme d'abécédaire, l'amour de A à Z.
Commençons par la lettre A.
A comme amour ou comme ange, celui qui a les yeux bandés et qui tire les flèches avec son arc pour percer les cœurs et qu'on appelle Cupidon ou Eros. J'ai appris grâce à cette exposition que le MUCEM est le musée qui possède la plus grande collection de préservatifs au monde.
Ah bon ?
Seront exposés des préservatifs Kamasutra aux emballages recouverts d'illustrations torrides du fameux texte hindou.
Ce qui fournit un objet pour la lettre K.
Exactement. Et pour la lettre J, la jalousie que Julia Ferloni a choisi d'illustrer avec des marionnettes.
parce qu'on a un fond de marionnettes absolument merveilleux et qu'on ne les montre pas si souvent que ça. Et donc, dans notre fond de marionnettes, j'ai retrouvé ce trio où la jalousie joue un rôle non négligeable, qui est celui de Harlequin, Colombine et Pierrot, qui, depuis le XVIIe siècle, accompagne la littérature d'abord savante, puis vraiment populaire, autour de ces trois personnages de la Commedia dell'arte, où donc le pauvre Pierrot est amoureux de sa Colombine, qui se laisse sans cesse charmer par Harlequin, qui la courtise dans le dos et parfois même à la vue de Pierrot.
Alors j'ai demandé s'ils avaient pensé à nous pour les lettres RTL, oui. Mais il paraît qu'ils n'avaient plus de place, car il fallait caser quelque chose à la lettre D, comme devoir conjugal, à F, comme fièvre amoureuse, qui fut l'occasion de sortir un thermomètre de l'amour drôlissime. Alors pour le P... Des chansons d'amour les plus populaires du répertoire français, parce que le musée répertorie aussi les chansons. Et après le P arrive celui que vous attendez tous,
ben oui,
et qui sera associé très subtilement à la quenouille, celle de la Belle au bois dormant qui se piquait les doigts, cette gourdasse. Écoutez Julia Ferloni.
Alors la quenouille, il faut rappeler ce que c'est. C'est un bâton plus ou moins orné qui sert à maintenir le fil qui servira à faire un textile. Et donc toute femme devait savoir filer sa quenouille. Et d'ailleurs, c'était un cadeau qui était fait en mariage un peu partout en Europe et aussi en Méditerranée. C'était un cadeau de mariage et ça disait le rôle, enfin ce qu'on attendait d'une femme à ce moment-là, à cette époque. Elle devait être capable de tisser un fil. Et puis, il y avait aussi l'idée sous-jacente que la transformation que la femme donne au fil, ben, c'est la transformation qu'elle va ressentir dans son corps en devenant une épouse.
Voilà, l'amour de A à Z ouvre ses portes demain au Mucem et pendant 7 mois, des jours et des nuits d'amour mettront le feu aux Bouches-du-Rhône et pour le reste, ça ne nous regarde pas.
Merci beaucoup Monique Younes pour cette visite pleine de charme. Dans un instant, nous vous gâtons avec des cadeaux, des passes famille de 4 places pour aller voir Soy Luna.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Je vous rappelle que Soy Luna arrive donc en France et que nous vous offrions ce matin des passes famille, 4 places pour le concert de votre choix. Mais pour cela, il fallait répondre à la question de Laurent. Quel sport pratique Carol Sevilla dans la série de Disney Channel Soy Luna? Réponse.
Le patin de ruedas. Le patin à roulettes.
Le patin à roulettes. Mais oui, on a été très complet maintenant. Fier de nous, le front qui scintille, de pouvoir trouver Julien Courbet.
Écoutez, qui peut vous présenter un peu des nouveautés, puisque j'ai pu écouter hier en exclusivité Le nouvel album de Johnny qui est enfin disponible avec des reprises étonnantes.
Toutes les successions que j'aime, elles vont bien te filer le blues.
Mais également la superbe reprise Laura.
Oh Laura, il y a tant d'argent que tu ne verras pas.
Le sublissime Je te promets.
Je te promets une surprise au niveau de mon argent. Quand tu vas découvrir mon Nouveau Testament.
Et bien sûr, le magique Tennessee.
On a tout placé en Californie. Les droits d'auteur, les sociétés aussi.
Le nouvel album de Johnny, recommandé par la Chambre des Notaires. Vous ne connaissiez pas peut-être.
Non, mais c'est une nouvelle version. Elles sont très bien, surtout d'actualité.
Exactement. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée.
Bonne émission, on vous écoute.
Vous écoutez RTL.